Mémoire vive, une émission aujourd'hui présentée par Isabelle Cohen de Castelbajac, chargée de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Une émission de la Fondation pour RCJ.
Beno Gross, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doyen de l'Université de Bar-Ilan, vous êtes docteur en philosophie de l'Université de Strasbourg, fondateur de l'école Akiba de Strasbourg et membre de la commission culture juive de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Surtout.
Surtout, absolument. Vous avez publié de nombreux ouvrages, en particulier sur la pensée du Maharal de Prague, mais récemment, en 2006, vous avez traduit le Nefesh HaChaim et cette année, aux éditions de l'Éclat, le Ruach HaChaim. Et nous voudrions parler avec vous de cette publication. La première question que je voudrais vous poser au nom de la Commission Culture Juive est la suivante. Pourquoi est-il si important, à votre avis, de traduire les grands corpus? Et pourquoi, justement, la Commission Culture Juive en a-t-elle fait l'une de ses priorités?
Je crois que ce qui est important après la Seconde Guerre mondiale, c'est de montrer au monde, et en particulier aussi aux Juifs, la raison d'être du maintien du judaïsme dans le monde. Alors, un aspect particulier, je crois, qui a été assez négligé avant la Seconde Guerre mondiale, en particulier en France, c'est l'aspect culturel. Étant donné que le judaïsme était vu essentiellement sous son angle confessionnel, ce qu'il demeure évidemment, mais il y a tout un aspect de culture juive qui manquait à la bibliothèque française, juive française. Et je crois que la Commission de culture juive a eu raison d'inscrire comme un de ses objet primordial de faciliter et même d'encourager la traduction et la présentation des livres de base de la culture juive qui permettent de montrer aux juifs, mais aussi aux non-juifs, la valeur humaine et générale et universelle du judaïsme.
Est-ce que, à vos yeux, le Nefesh HaChaim et le Ruach HaChaim constituent un ensemble, même s'ils sont finalement écrits par deux auteurs différents et qu'ils sont d'un genre très différent?
Oui, enfin, on ne peut pas dire qu'ils sont écrits par deux auteurs différents, ils sont véritablement écrits par le même auteur. Plus exactement, le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, a été rédigé par Ephraim lui-même, et d'une façon très précise à la virgule près, tandis que l'ouvrage que je viens de publier aux éditions de l'Éclat, eh bien, ce sont des notes prises par ses élèves et rédigées par son fils, mais en fonction des théories exprimées dans l'âme de la vie. Donc, par conséquent, il s'agit d'un même ouvrage, en tout cas d'une même veine, d'une même inspiration. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est dans l'âme de la vie est présenté d'une manière théorique et d'une manière très approfondie, en particulier en relation avec la Kabbale, est présenté dans le souffle de vie, le Ruach HaChaim, à un public beaucoup plus large. Et ce qui m'a précisément intéressé, c'est la manière dont cet auteur a été capable de transférer, si vous voulez, à un public large et peu au courant de ses sources, une pensée difficile, mais qu'il met à la portée de tous.
Alors justement, cette pensée difficile qui est décrite dans le Nefesh HaChaim, est-ce qu'elle constitue une révolution ?
Le Nefesh HaChaim constitue très certainement une révolution, et une révolution importante, parce que je voudrais dire que l'auteur aussi du Ruach HaChaim n'est pas seulement un auteur, mais qu'il a fondé une yeshiva. Et la fondation de cette yeshiva marque véritablement une césure dans l'histoire de la transmission de la culture juive. En effet, avant, il n'y avait que des petites hadarim, on peut dire, c'est-à-dire de petits instituts dans chaque ville ou dans chaque village. Ce que Ephraim a fait, c'est qu'il a créé une institution nationale, la yeshiva de Volodjin, où les élèves étaient internes et où l'étude était promue à une valeur primordiale. Cette yeshiva a été la mère de toutes les yeshivot qui existent actuellement, à savoir un internat et porter l'étude à un très très haut niveau, je dirais même à une valeur primordiale en ce qui concerne le judaïsme. Donc, si vous parlez de révolution, oui, on peut dire que cela a constitué une révolution. On peut s'interroger évidemment sur la valeur. Nous sommes au début du 19e siècle, maintenant nous sommes au début du 21e, et donc on peut s'interroger sur la pérennité de cette révolution. Mais en tout cas, pour l'époque, il ne fait aucun doute que ce fut un renouveau de la pensée juive et surtout, donner une place à l'étude. Et vous voyez que dans le commentaire de Pirkei Avot, ce livre est un commentaire des Pirkei Avot. Le Pirkei Avot est un ouvrage de la Mishnah qui est un résumé qu'on peut appeler le résumé de la morale juive. Donc, par conséquent, qui s'adresse à un public très, très large. Et le Nefesh HaChaim a voulu faire de ce commentaire, si vous voulez, une illustration de sa méthode, de sa pensée, en informant le public le plus large possible des valeurs de l'éthique qui, pour lui, sont résumées dans les valeurs de l'étude.
Et alors justement, donc, le Rabbi Chaim de Volozhin commente les Pirkei Avot. Donc Pirkei Avot qui datent peut-être du 2e siècle après l'ère chrétienne. Rabbi Chaim de Volozhin, lui, vit au 19e siècle. Vous vivez au 21e siècle. En quoi est-ce que le commentaire des Pirkei Avot fait par Rabbi Chaim de Volozhin renouvelle la bibliothèque immense des commentaires des Pirkei Avot, parce qu'il y en a bien d'autres? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce commentaire-là? Et d'ailleurs, pourquoi Michel Valenzi a-t-il choisi, à votre suite, de publier cet ouvrage?
Eh bien, parce que ce commentaire a quelque chose de particulier. C'est que Reb Chaim ne s'intéresse nullement aux circonstances dans lesquelles ces auteurs ont exprimé leur vue. C'est-à-dire, il néglige complètement l'historicité du moment, la personnalité même des différents auteurs, qui s'étendent sur environ 400 ans quand même. Et par conséquent, il ne tient pas compte du tout de cette valeur historique. Pour lui, il essaye de saisir l'essence des choses. Et il pense que ces vérités exprimées à l'époque, qui sans aucun doute sont marquées par les contingences de l'époque, mais qui dépassent largement les contingences de l'époque et les problèmes historiques du moment, pour représenter une vérité qui reste une vérité qui pour lui est universelle. Quant à en ce qui me concerne, lorsque nous avons édité L'âme de la vie, on m'a demandé tout de suite également de publier cet ouvrage-là. Mais j'étais trop occupé pour le faire à l'époque et donc j'ai pensé que maintenant cet ouvrage avait une importance, en particulier a une importance à mon sens parce qu'il présente une valeur pédagogique de l'étude. Et nous sommes à un moment où, vous le savez bien, on s'interroge sur les programmes de l'éducation, sur les valeurs de l'éducation, qu'est-ce que c'est que l'étude. Alors cet ouvrage nous permet de réfléchir au sens même qu'il y a à étudier. Et ceci me semble un des problèmes importants de notre époque, de savoir pourquoi l'on doit étudier, quelle est la valeur de l'étude, d'une étude générale, de la pensée en général, d'une étude scientifique tout autant, mais plus particulièrement ce qui concerne l'étude de la Torah, quelle est la valeur qu'elle occupe, parce qu'il faut bien dire que dans la civilisation juive, cette étude représente un aspect particulier par son aspect démocratique d'abord. Il n'y a pas de sages qui sont réservés à une caste, au contraire, et justement cet ouvrage présente le grand avantage de démocratiser l'étude, et de réclamer que même ceux qui sont à un niveau inférieur, culturellement parlant, eh bien, ils puissent également se livrer à une étude, de telle façon que le peuple juif a retenu jusqu'à ce jour une certaine qualité intellectuelle qui lui vient très certainement de la place que l'étude occupe dans la pensée juive et dans la civilisation, et je dirais aussi dans la religion juive.
André Chouraki disait que le peuple juif était moins le peuple du livre, c'est les musulmans qui nous qualifient de peuple du livre, que le peuple de l'interprétation du livre. Et cet enchaînement, cet enchâssement de commentaires, de surcommentaires, est-ce que vous avez l'impression que c'est le dispositif ou la méthode que le judaïsme a forgé comme étant le meilleur outil pour essayer de cerner la vérité?
En tout cas, c'est un instrument qui a permis la pérennité du judaïsme, c'est-à-dire sa transmission. Je vais vous citer un des textes de cet ouvrage, justement, qui illustre cette chose. Dans les Pirkei Avot, on trouve une réflexion que les paroles de nos sages sont comme des braises. Alors, d'habitude, n'est-ce pas, on interprète ceci, et dans les mêmes textes dit lui-même, faites attention, ces braises sont brûlantes et vous risquez de vous brûler, donc il faut manier ces paroles avec prudence. Mais notre auteur, Abraham, lui, il interprète différemment. Et il dit que les paroles de nos sages sont comme des braises. Apparemment, si vous regardez ces braises, elles sont en train de s'éteindre. Et dans quelques minutes, peut-être, il n'y aura qu'un charbon qui n'aura aucune signification. Cependant, si vous soufflez sur les braises, et si votre souffle est suffisamment fort et vigoureux, et bien tout à coup, ces braises reprennent vie et ils sont capables de donner lumière et chaleur. Il en est ainsi des paroles de nos sages, c'est-à-dire que apparemment la poussière a passé là-dessus et ce sont des paroles anachroniques. Mais tout dépend du souffle que vous êtes capable d'imprimer à cette interrogation de ces paroles. Et si votre souffle est suffisamment vigoureux, eh bien, comme je l'ai dit, il redonne une lumière. C'est une très belle interprétation de ce livre et ça vous prouve également un des aspects que je trouve un des aspects capitaux et qui est le suivant. C'est que l'apprentissage, l'étude, n'est pas simplement la transmission d'un savoir et de déverser des idées ou des arguments d'un maître à un élève. Mais cette étude, en particulier chez Ephraim, elle est susceptible de redonner vie, c'est-à-dire elle a un sens, un dynamisme intérieur. Et que la transmission est justement la transmission de ce dynamisme. Je veux dire par là que toute étude véritable est également une recherche. Et là, ce que notre auteur souligne particulièrement, c'est que l'étude doit éveiller à cette recherche. Une étude qui serait simplement une transmission comme une transmission d'objets, eh bien, n'atteint pas véritablement l'âme et n'est pas capable d'animer, dans le vrai sens du mot, une véritable étude. Et ce qui me semble aujourd'hui, pour nos écoles et pour d'une manière générale, très 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 important, et même, je dirais, dans la culture générale, c'est que l'étude doit viser à quelque chose. Sinon, c'est tout simplement une qualité technique, mais elle n'a pas d'âme. Or, un des problèmes qui me semble aujourd'hui un problème essentiel dans l'éducation d'une manière générale, c'est de montrer à quoi cette culture a un sens et ce qu'elle permet d'aboutir. Pour Ephraim, l'étude de la Torah a ce sens, pour lui très ferme, qu'il permet l'existence des mondes. Il souligne particulièrement la responsabilité de l'homme dans l'étude des mondes et cette responsabilité de l'homme est que l'homme occupe une position particulière. Et pourquoi ? Eh bien parce que Dieu a mis dans sa bouche, comme le dit le verset d'Isaïe, un souffle de vie. C'est le titre de cet ouvrage. Et ce souffle de vie, qui est une parole, eh bien, elle permet de... Le texte d'Isaïe le dit, j'ai mis dans ta bouche une parole qui pour étendre les cieux et affermir la terre. C'est-à-dire que finalement, le monde existe non pas par la force de son immanence, mais par la qualité spirituelle qui l'anime. Eh bien, si l'étude arrive précisément à redonner ce caractère spirituel et à former non seulement une connaissance technique, mais à transformer l'homme, eh bien, dans ce cas-là, il a un dynamisme, il a une joie. Et ceci me semble très, très capital dans le programme aujourd'hui de l'éducation en général.
Donc, en fait, le judaïsme, c'est tout sauf de l'encyclopédisme. L'étude juive, c'est tout sauf une étude encyclopédique. C'est un savoir qui est noué à la vie et qui vise à transformer l'homme, à l'élever.
Je pense que c'est une chose essentielle. Il ne suffit pas de comprendre, il ne suffit pas d'apprendre, il faut comprendre. Et pour cela, il faut un approfondissement. Et cet approfondissement vient de ce qu'il y a de particulier, je crois, dans l'étude de la Torah, c'est qu'à partir d'un texte considéré comme un texte sacré, eh bien, en tirer toutes les virtualités et toutes les possibilités. Et pouvoir ainsi extraire d'un texte toutes les virtualités qu'il a, et il en a de multiples, puisqu'on dit que la Torah a 70 aspects. Donc par conséquent, si l'élève participe à ce renouvellement du sens, je crois que c'est essentiel. Cela souligne la responsabilité du maître d'éveiller cette connaissance, cette curiosité, et également à l'élève de sentir que son devoir à lui, ce n'est pas de répéter comme un perroquet ce qu'on lui a appris, mais de renouveler le sens et donc par conséquent de participer à cette dynamique de recherche de la vérité qui, me semble-t-il, est l'essentiel de ce qu'une éducation peut donner.
En prolongement de la pensée de Rabbi Chaim de Volozhin sur l'éducation, vous dites souvent qu'entre le maître et l'élève, il y a une relation éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, je crois que, je dirais que le maître, son rôle est un rôle d'éveilleur. Éveilleur veut dire donc d'animer l'âme de l'élève, de le faire respirer, de lui montrer, de l'élever à une certaine lumière. C'est bien que la rencontre entre le maître et l'élève est une rencontre d'âme à âme en vérité. À travers la personnalité du maître, ce n'est pas seulement un savoir technique qui se manifeste, mais c'est toute la personnalité du maître qui se transmet. Et en ce qui me concerne, un des aspects essentiels, je trouve, de l'enseignement, c'est de précisément souligner ce caractère-là. Et chaque élève, je crois, ressent cela. Et c'est pourquoi la relation du maître et de l'élève est une relation qui est une relation, je veux dire, interpersonnelle, fraternelle. Elle n'a pas d'exemple. Les élèves, ce sont les constructeurs. Et c'est effectivement ce caractère de construction constante, et en même temps qu'une élévation de l'âme, eh bien, c'est la garantie que la culture est capable non seulement de soulever les montagnes, mais d'assurer l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire la responsabilité de l'homme.
Vous disiez tout à l'heure que par l'étude, on peut soutenir et alimenter les mondes. Est-ce qu'on pourrait dire que le roi Rachaïm est à la fois un traité d'éducation juive et une introduction à la Kabbale?
Introduction à la Kabbale, cela serait trop dire. Le Nefesh HaChaim, oui, l'âme de la vie. Le Ruach HaChaim, ce livre-là, c'est l'utilisation des principes de la Kabbale pour donner à l'étude une valeur positive, comme je l'ai dit. Dans ce sens-là, oui.
Finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire de tous nos grands corpus qu'ils sont des traités d'éducation?
Oui, je pense que dans la mesure, encore une fois, dans la mesure où ces corpus ne transmettent pas seulement un savoir, mais invitent à une réflexion, et à une réflexion qui n'est pas seulement une réflexion intellectuelle, mais qui concerne véritablement une responsabilité de la quête de la vérité, à ce moment-là, oui, je crois que chacun apporte en tout cas une pierre à cette construction continuelle qui a permis au judaïsme de résister jusqu'à aujourd'hui.
Alors, une autre question. Pourquoi est-ce que Rabbi Chaim de Volozhin a choisi, pour illustrer sa pensée théorique, donc exposée dans le Nefesh HaChaim, particulièrement de commenter les Pirkei Avot?
Parce que les Pirkei Avot, c'est, si vous voulez, un résumé de la morale juive. Un résumé de la morale juive dans ce sens que c'est un traité d'éthique, mais un traité d'éthique qui ne parle pas de notions abstraites, mais qui parle des réflexions concrètes qui concernent la vie de tous les jours, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le rapport de maître, d'élève et de transmission, eh bien, est un ouvrage populaire. Et un ouvrage qui est, vous savez qu'on le récite dans les synagogues de Pessah à Shavuot et pour certaines communautés de Pessah jusqu'à Rosh Hashanah. Donc c'est un texte très connu. C'était donc l'occasion pour Ephraim de présenter à un public large à sa conception de l'étude qu'il voudrait précisément démocratiser. Car ce qu'il faut dire, surtout dire, c'est que l'étude dans le judaïsme n'est pas la priorité d'une caste, mais qu'au fond, cela concerne tout le monde. Eh bien, le fait qu'un grand maître se soit appliqué à un texte simple relativement, de vouloir introduire un public qui n'est pas spécialement averti, eh bien, c'est un des efforts de Reb Chaim pour démocratiser justement la valeur de l'étude, qui pour lui était une priorité absolue au moment où il a rédigé son ouvrage.
C'est la même démarche qui animait les grands maîtres de la Chassidoute, avec lesquels justement l'école lituanienne était en discussion.
Oui, on n'a pas dire plus. Effectivement, mais cette volonté de ne pas demeurer seulement l'apanage de ceux qui sont des érudits, mais il souligne d'une façon très intéressante et très profonde d'ailleurs, que pour l'étude, il ne faut pas au départ, mettre la barre trop haut. Si on met la barre trop haut, on décourage l'élève. Donc, par conséquent, il faut toujours commencer par, par intéresser, commencer par le bas. Donne l'exemple, par exemple, un patron qui dirait à un employé « monte sur l'échelle », eh bien, il est bien obligé de commencer par le degré le plus bas avant de pouvoir monter au degré le plus haut. L'essentiel, c'est de ne pas rester au degré le plus bas. Et par conséquent, le fait de monter ainsi, d'échelon en échelon, d'une façon progressive, et de souligner cette progression, me semble là aussi un élément de pédagogie de toute première importance. Ne pas décourager l'enfant ou l'étudiant d'une manière générale, mais l'aider à aller de degré en degré et de lui montrer, par son exemple personnel, jusqu'où cela peut nous mener.
Le Talmud dit que le monde repose sur le souffle des enfants qui sont à l'école. Tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est grâce à l'étude que les mondes sont soutenus et alimentés. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez lever un peu plus le voile pour nous expliquer comment est-ce que l'étude alimente les mondes supérieurs ?
Ah ben ça, c'est assez compliqué, étant donné que cela est fondé sur le verset que Dieu a créé l'homme poussière de la terre, mais lui a insufflé un souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est la parole divine. Alors par conséquent, cette parole, qui est en même temps parole divine, mais parole de l'homme sur Dieu, elle permet de maintenir les mondes, puisque le monde n'existe pas par sa force immanente, mais par la spiritualité qui l'anime, c'est le cas de le dire, et qui permet précisément son renouvellement, ce que nous appelons la source de vie. Eh bien, cette manière d'envisager l'étude me semble extrêmement importante. Je voudrais ajouter cependant que, en ce qui nous concerne aujourd'hui, l'étude évidemment concerne toute sa valeur, mais je crois qu'il faut souligner qu'à côté de l'étude, il y a l'histoire juive et que tout le monde ne peut peut-être pas consacrer toute sa vie à l'étude et que l'histoire juive représente un autre pan, une autre activité qui permet elle aussi la pérennité du judaïsme.
L'histoire juive, c'est-à-dire l'étude de l'histoire ou la
non,
ou
non la vie, la vie de l'histoire, même ceux qui n'étudient pas participent socialement à la vie juive, et bien que l'étude soit l'aimant qui évidemment lui donne toute sa force, et bien il y a pour un grand public, il doit également sentir que l'histoire juive a une valeur particulière qui, elle, permet également la poursuite du judaïsme.
Ménogros, on attend avec impatience votre prochain livre et on vous remercie de tout cœur d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Deux adresses pour nous retrouver, www.mémoirevive.net et www.radio-rcj.info.